Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Sofiane Aktib. Porter son regard cette semaine sur le dégoût du narrateur de la nausée de Sartre, qui lorsqu'il décrit son rapport au monde au début du roman, paraît presque un héros lovecraftien, tant les objets qui l'entourent lui semblent être des entités aussi étrangères que menaçantes. Par exemple dans cet extrait, « Les objets, cela ne devrait pas toucher, puisque cela ne vit pas. On s'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux, ils sont utiles, rien de plus. Et moi, ils me touchent, c'est insupportable. J'ai peur d'entrer en contact avec eux, tout comme s'ils étaient des bêtes vivantes. » Je ne suis pas une intellectuelle engagée, je suis poète, je remarque et je note tout ce qui sensiblement me heurte, me capte, m'arrête. Je cite notre invité à son propre sujet car je n'aurais pas fait mieux. Je ne tiendrai dans cette présentation qu'un rôle protocolaire en ajoutant qu'elle est également professeure de lettres au collège à Digne-les-Bains et qu'elle a publié 3 ouvrages cette année, Un hamster à l'école aux éditions La Fabrique, J'adore apprendre plein de choses aux éditions Oura et La Cavalière chez POL.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Nathalie Quintane.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde?
C'est pas à moi de le dire. Peut-être que si le monde pouvait parler, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en pense.
Ah oui?
Ouais.
Vous n'avez pas de sentiment à ce sujet?
Ça dépend de l'heure de la journée. Le matin,
ça change.
Oui, le matin c'est difficile. À midi, une fois que j'ai mangé, ça va un peu mieux. Et puis le soir, après un petit verre, ça va mieux aussi.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même? Est-ce que vous êtes de bonne compagnie?
Alors, mais ça, je le sais, peut-être en écrivant, finalement. C'est une sorte de point aveugle. Et à partir du moment où on pose un pronom, par exemple « je », mais pas forcément, ça peut être « on », voire « il » ou « elle », ou le mélange des deux... Là, peut-être qu'on commence à approcher quelque chose, mais de un peu glissant dans tous les sens du terme.
Tu dis ? Oh, je te crois pas. Non, t'exagères pas un peu, non ? Que je veux pas discuter avec toi, t'as toujours raison. On va plutôt me chercher du poivre, tiens. Du poivre. Eh ben, tu trouves pas ? Ah, il a trouvé.
1968, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert avec Philippe Noiret qui campe un héros qui vit au lit par choix et dans cet extrait converse avec son chien. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi bienheureuse qu'Alexandre, Nathalie Quintane, mais pour ce qui est de ce qui vous donne envie de vous lever, il y a un point commun puisque vous avouez, j'ai presque toujours envie de rester couchée pour repousser le moment de me lever. Ensuite, j'ai faim, alors je me lève, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est la nécessité qui vous fait vous lever ?
C'est l'estomac.
Oui.
Peut-être que c'est ça, non? Vu ce que je fais, il faut être à l'écoute de tous les organes.
Ils
donc
sont
le
bavards,
matin,
vos organes?
Pardon?
Ils sont bavards, vos organes?
Ah, ils sont un peu trop muets, donc il faut que je m'auto-ventriloque. Peut-être que c'est ça, la littérature, c'est de s'auto-ventriloquer.
Ben oui, vous mettez les personnes que vous voulez à l'intérieur.
Voilà.
Bon, alors jusqu'à 11h, on va passer en revue votre façon d'habiter le monde et votre équipement existentiel. Il sera entre autres question d'urbanisme et d'éléments de langage, de Jonathan Swift, de Buñuel, de syndicalisme, de Rimbaud, d'échecs et d'attention.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, reviendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Le cœur du monde de Bernard Lavilliers dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Nathalie Quintane.
L'écologie, une priorité, pas la seule. Ou pas la seule priorité.
On dit tout à l'heure, on avait...
Les fers menacent de se barrer.
Maman, soit on fait mieux, soit on reste là-dessus. Autre chose ?
L'écologie est une composante essentielle de la gauche.
Ouais, la gauche, c'est une ratatouille. Faut pas trop d'aubergines. Non, bon, allez, c'est la merde, là.
Mais on doit absolument trouver une formule.
T'as le temps d'écrire un bouquin pour dans 8 minutes ? Et ensuite, il faut le résumer en 140 caractères.
Bon, en fait, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, faut qu'on essaye d'intégrer la composante écologiste de la majorité municipale dans la critique du maire, et après, on réduit un peu la critique. Un truc du genre, les écolos de la majorité municipale savent très bien que l'écologie n'est pas tout, etc. Après, on brode là-dessus.
Quoi. Mais simplement dire que démocratie et écologie ne sont pas incompatibles, mais que nous ne transigerons pas sur la démocratie au nom de l'écologie.
Je comprends rien. Autre chose ?
Comment ça, tu comprends rien ?
C'est pas clair, c'est trop compliqué, c'est mal dit.
On peut peut-être reformuler après avoir un peu réfléchi, non ?
On n'a pas le temps de réfléchir.
Alice est le maire de Nicolas Parizard, sorti en 2019, dans lequel on entend une réunion de crise des communicants de la mairie, dans laquelle Alice, jouée par Anaïs de Moustier, vient d'être embauchée. Nathalie Quintane, parmi les choses que vous aimeriez changer dans la société, il y a l'urbanisme et les éléments de langage, c'est-à-dire le fond et la forme. Et en vous prenant au mot, j'aimerais donner les définitions. Donc, éléments de langage, c'est les formulations préparées et mises à la disposition d'acteurs sociaux appelés à s'exprimer dans l'espace public et les médias. Et là, ça donnait une bonne illustration. Vous vous penchez dessus, notamment dans Un œil en moins ou dans Les enfants vont bien. Depuis toujours, vous découpez comme ça tout, vous entendez tout, ça vous heurte ?
C'est pas depuis toujours, puisque j'ai commencé à écrire il y a presque 25 ans, mais c'est peut-être depuis une dizaine d'années que ça me semble particulièrement frappant, parce qu'en fait, ces éléments de langage se transportent de bouche en bouche, quelle que soit, par exemple, la tendance politique des hommes qu'on, ou des femmes qu'on entend. Hein. Par exemple, là, je sais pas, ça devait être un peu plus ou moins des socialistes centraux, droitistes, cet extrême quelque chose. Et en fait, un peu tout, quoi. Hein, parce qu'un peu ça glisse de... Voilà. Et de plus en plus, d'ailleurs, ça devient une planche à savon. Et il se passe, il se refile comme ça, étant donné que ce sont vraisemblablement, je sais pas si c'est les mêmes agences qui préparent tout
tout ça, ils se refilent les mots comme ça et on entend un peu toujours les mêmes. J'ai travaillé par exemple assez précisément sur les éléments de langage pour la qu'on appelle ça l'inauguration de la fondation LVMH. Donc il y a 5-6 ans, c'était remarquable hein. Cet écrin qui est destiné à tous les Parisiens, à tous les Français, ce cadeau inestimable que la Fondation fait à nous tous, etc. Parce que évidemment, on est dans une forme de charité maintenant, hein, un cadeau inestimable qu'on vous offre. Et donc ces mots-là, écrin, etc. Ben on les retrouve dans des tas d'autres bouches pour présenter, je sais pas, un foyer, une maison, un musée, une baraque, un hôtel, une bibliothèque, voilà.
Mais Nathalie Quintaine, est-ce que vous ne pensez pas que la société arrive à identifier ces éléments de langage ? On a beau nous seriner la tête d'éléments de langage en permanence, j'ai l'impression quand même que la majorité de la société s'en rend compte. Et hélas, il n'y a plus vraiment de valeur dans les mots qui sont prononcés.
C'est sûr qu'il y a de plus en plus eu de par exemple, les humoristes, etc., mettent le doigt là-dessus depuis quand même pas mal d'années. Donc je suppose que les auditeurs, enfin à peu près tout le monde, est sensible à ça maintenant, ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est remarquable, c'est que ceux qui utilisent ces éléments de langage continuent à les utiliser malgré tout. Comme si ça, voilà, comme si ça glissait, comme si c'était une espèce de toile cirée, comme s'il ne, bon, voilà, c'est comme ça qu'il fallait parler et pas autrement. C'est plutôt ça qui est remarquable, en fait, parce que c'est identifié, de plus en plus identifié. Moquer. On se souvient de Agnès Pannier-Runacher, etc., quand elle sort en plein brainstorming. Ah, oh, l'usine, c'est magique, c'est la magie, etc. Tout le monde se moque de ces mots, mais malgré tout, ça va continuer comme ça. C'est ça qui est un peu fou.
Comment vous changeriez, en fait, alors, quel chantier mettre en place pour les éléments de langage ? Si vous aviez un pouvoir politique ou un pouvoir magique ? Ça dépend de votre optimisme.
Je n'ai aucun pouvoir.
Mais si jamais vous en aviez, comment est-ce qu'on pourrait...
Mais là, il faudrait ouvrir les crânes en deux et changer le cerveau, quoi.
Pas très accessible.
C'est un peu compliqué.
Oui. Donc il n'y a pas d'espoir, en fait.
Bah, peut-être pas forcément de ce côté-là. De toute façon, changer les discours ne suffirait peut-être pas à changer les actes, même si les deux sont liés. Donc il faut sacrément se retrousser les manches.
Bon bah alors parlons d'un autre élément peu réjouissant, l'urbanisme, soit les arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous ? À part tout et ouvrir des crânes et des maisons et mettre le feu à la ville.
Ah bah voilà.
Bah oui.
Table rase comme on disait.
Ouais.
Ouais ouais. Je sais pas, on est dans un sentiment de j'ai l'impression, hein, je suis pas la seule à le penser, d'attente. Pas seulement des élections présidentielles, mais d'attente. On ne sait pas très bien ce qu'on attend. Et donc, étant donné de qu'on est dans cette attente devant une sorte de vide pas très peuplé, ou pas suffisamment peuplé, en tout cas d'idées, d'imagination, d'images, c'est pauvre, hein. C'est très réduit, une sorte de... On est dans une sauce qui est en pleine réduction, quoi. Alors, comment lui redonner de la saveur ? Ouais, imaginons, voilà... C'est la seule chose qu'on peut faire. On part de zéro et qu'est-ce qu'on ferait ? Mais c'est une période un peu particulière et le problème, c'est qu'on le temps, le calendrier, pour le moment là, on nous l'impose.
J'aimerais que vous nous parliez, Nathalie Quintaine, du rôle de la poésie, parce que vous dites plusieurs choses à son sujet. D'abord, vous dites que vous refusez d'écrire des textes à effet social nul. Et ensuite, que vous avez toujours eu du mal à comprendre comment des programmes, des revues, des individus aussi forts pouvaient se contenter d'un terme aussi faiblard aujourd'hui que poésie.
Oui. Bah, et poésie, c'est comme littérature et comme pas mal de mots. En fait, on a eu de cesse, alors derrière le « on » on peut mettre plein de gens et d'instances, hein, mais de le désamorcer. C'est sans cesse en cours de désamorçage. Alors il y a des désamorçages charmants, par exemple, appeler Rimbaud le poète maudit, l'homme qui n'a plus de jambes, le magnifique voilà, créateur des illuminations, je ne sais trop quoi. Ça c'est un désamorçage qui passe comme une lettre à la poste, enfin quoique. Et puis il y a des désamorçages toujours derrière, plus violents en fait. Hein. La force des textes de Rimbaud, de certains, hein, comme Démocratie, je ne sais pas si on aura le temps de
ouais,
le voir.
C'est sûr qu'on aura le temps.
Qui est un texte qui est des illuminations qui est pile poil pour aujourd'hui, qui est à peu près une rite, comme on dit, qui nous dit très exactement là où nous en sommes, sauf que c'est un texte qui a été écrit il y a plus de... en 1870 et quelques. Et donc voilà,
le seul effort à faire, et peu importe d'ailleurs qu'on dise poésie, anti-poésie ou rien du tout, pourquoi pas rien du tout plutôt, hein, c'est ça, c'est un effort incessant de ne pas désamorcer ce qui est avancé ou ce qui se présente à un moment, quoi. Et ça, c'est un lourd travail.
Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages en réaction à l'actualité. Je pense à Tomate, l'affaire de Tarnac, Un œil en moins, le mouvement Nuit debout, Les enfants vont bien, ces violences faites aux réfugiés en France suite au démantèlement de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Vous parlez du fond et de la forme, Nathalie Quintané. Dans une interview, vous dites, pour le site Lundi Matin, j'avais pourtant bien spécifié, je ne sais plus où, que quand vous dites quelque chose de gauche dans une forme de droite, c'est comme si vous disiez quelque chose de droite. C'est vrai ? Enfin, vous le pensez ?
Ça, ça vient de la poésie, hein, du fait que la manière dont on dit les choses est au moins aussi importante que ce qu'on dit.
Et vous pensez qu'une idée de gauche, elle peut être dite sous une forme de droite et devenir une idée de droite par sa simple forme ?
Alors, c'est pas devenir une idée de droite, c'est que on entre dans une routine de la syntaxe, de la phrase telle qu'elle est construite. Ça, voilà, on ne voit plus, on a l'impression que le langage est transparent, qu'il n'est plus là. On a l'impression que tout ce qu'il y a à saisir est dit de manière évidente, au premier degré, etc. Et en fait, dans cette espèce d'habitude de la langue où rien n'est arrêté, rien n'est un peu suspendu, on peut pas, en tant que lecteur, hein, prendre un tout petit peu de recul, bah, finalement, je me demande si, on n'oublie pas un peu plus vite le livre et ce qui est dit, parce que ce qui est dit est emporté dans une manière très habituelle et ordinaire et de dire les choses, donc on l'oublie très vite et je crains très fort l'amnésie, l'oubli, le défaut de transmission au sens où il y a un défaut dans le moteur ou ça. Voilà, ça, il me semble que c'est ce qu'il y a, l'une des choses les plus à craindre depuis assez longtemps. C'est pas récent, hein. Donc le fait de travailler une phrase où de temps en temps ça, hop, ça fait des hoquets, ça fait des chocs, c'est un peu malmené, un peu coupé, un peu mis dans un autre ordre. Ça permet, me semble-t-il, de regarder le monde autrement et de saisir des choses de manière plus aiguë, plus sensible, de penser de cette manière-là.
C'est ouais. Exactement ce que vous faites dans vos livres, Nathalie Quintané, puisque vous fragmentez justement un peu tout le monde qui vous entoure. Il y a aussi cette idée de transmission et puis aussi ces événements où vous, sur lesquels vous vous arrêtez parce que vous vous dites « Ah, là, je sais que dans quelques années, on va faire comme si ça n'avait pas eu lieu ».
C'est exactement ce qui s'est passé au moment des Nuits debout. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui s'en souvient maintenant, et pourtant ça date d'il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et quand ça a commencé, donc ces espèces d'occupations de place un peu partout, pas seulement à Paris, mais aussi dans la ville où j'habite, qui est une toute petite ville de province, dès que ça a démarré, je me suis dit, il faut que je prenne des notes, il faut que j'écrive quelque chose, parce que une fois que ce sera passé, ou ne serait-ce que dans 3 semaines, on va dire que c'est pas ça, que en fait il s'est pas passé grand-chose d'intéressant, et puis pour le final, finalement, il s'est rien passé. Et en effet, ça, c'est ce qui s'est passé, c'est que très vite, une certaine forme de doxa, de discours, a enterré ce mouvement-là, et l'a minimisé, l'a réduit, voilà, comme je parlais tout à l'heure d'une sauce réduite, il y a une réduction des luttes, quoi, hein, et des moments de vie comme ça qui ont pu avoir lieu dans le pays depuis quelques années. C'est comme ça que j'ai écrit Un œil en moins, sur le motif. Pour m'en souvenir, moi, d'abord, hein, parce que je me disais, je vis ça, je vois les gens vivre ça, et demain, j'aurais oublié, pas tout, mais j'aurais oublié des détails significatifs. C'est le détail, vraiment, qui m'intéressait. Et c'est pour ça que ce livre-là a été écrit sur le moment. C'est le présent qui m'intéresse, et c'est très difficile à saisir, le présent.
Article 1er. La délégation patronale admet l'établissement immédiat de contrats collectifs du travail. Article 2. Ces contrats devront comprendre notamment les articles 3 à 5 ci-après. Article 3. L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 3 du Code du travail.
Roger Salengro, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Léon Blum, détaille les accords de Matignon en juin 1936, soit 5 mois avant son suicide, octroyant les accords de Matignon, octroyant notamment aux travailleurs le droit à un délégué syndical, ce qui assure le respect, normalement, en principe, du droit syndical. Pour vous, Nathalie Quintané, votre engagement dans le syndicalisme vous oblige à vous informer dans le détail du fonctionnement des institutions, des possibilités d'action légale et de leurs limites. C'est une réelle participation citoyenne, en fait.
Oui, et puis c'est l'un des moyens aussi de la transmission, je pense. Peut-être que je l'ai oublié très longtemps, parce que ça fait pas tellement longtemps que je me suis syndiquée, mais il me semble que c'est un moyen de comprendre comment ça se passait avant, comment on faisait face aux difficultés, comment on établissait un rapport de pouvoir avec la hiérarchie quand ça se passe mal, comment on pouvait être épaulé, pas toujours seul devant le directeur, le proviseur, le patron, etc. Et en fait, par ce biais-là, vraiment se transmet toute une culture politique, toute une des procédés, des manières de faire, des outils, un équipement qui vient de dire voilà de bien avant Salengro. Et ça, il me semble que c'est un aspect du syndicalisme ou d'une forme d'engagement qui ne doit pas être négligé, qui me semble importante. Toujours pareil par rapport à l'oubli et à l'amnésie, au fait qu'on se sente trop souvent démuni dans les situations difficiles.
En parlant d'engagement, Nathalie Quintane, vous avez signé un texte pour la revue Lundi Matin sur l'engagement des écrivains, intitulé « Si la littérature est une niche ». Et vous parlez avec ironie de l'intensité de l'engagement, c'est assez drôle. Alors, il y en a qui ont pris position, je vous cite, hein. Il y en a qui ont pris position à la télé intensément. L'une des caractéristiques de l'intensité, c'est qu'elle peut se voir. Par exemple, vous avez les cheveux en bataille, vous vous penchez un peu trop en avant, vous avez des montées et des descentes vocales, vous roulez des yeux, vous quittez le plateau en claquant la porte. S'il n'y a pas de porte, on imagine le bruit.
Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron, il était en train de parler de culture et puis il s'est senti obligé d'ouvrir un peu sa chemise à la BHL et de se passer la main dans les cheveux et d'être un peu comme ça, intense, un peu, voilà. Et dès qu'on parle de culture, on sort pas son revolver, mais on déboutonne sa chemise, quoi. Il y a une espèce de cliché sur la culture, bah, c'est un peu foufou, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit truc sympa, c'est etc. Et donc, oui, le truc qui me semble, je peux pas faire sans, donc évidemment je parle pour ma paroisse, mais il y a une forme d'engagement dans la littérature qui passe par l'humour, mais directement, et ça c'est quelque chose d'ontologique ou d'originel dans la manière dont j'écris et dont je considère, dont je vois les choses, hein. C'est que il me semble que l'humour noir, enfin toutes les couleurs de l'humour, c'est vraiment un moyen de justement d'amorcer les petites bombes, puisque c'est pas des grandes bombes, et de parer à la réduction. Ça me semble être un régime et un registre important et efficace.
On va revenir à l'humour et notamment à l'ironie, mais j'aimerais revenir sur une chose que vous abordez, Nathalie Quintane. Vous parlez justement du rôle de l'art et vous dites dans une interview que vous êtes devenue bête au lycée. Tout le monde partait à la conquête du bac. Je me suis enfermée dans la littérature, la musique, le cinéma, bouclée là-dedans à double tour.
Oui, bah, je suis tombée dans les années 80. En fait, j'étais au collège dans les années 70. J'étais en Seine-Saint-Denis à l'époque, à Pierrefitte-sur-Seine. Et puis, par la magie d'un micro-déménagement de quelques centaines de mètres, je me suis retrouvée dans le Val d'Oise et dans les années 80. Et là, tout le monde était en train de bachoter de la seconde à la terminale. Donc, je l'ai eu, mon bac, hein. Mais il y a toute une... Peut-être que c'est là l'origine de cette préoccupation pour la transmission. C'est que là, il y a quelque chose que j'avais saisi de l'après 68, quand j'étais au collège avec certains enseignants. Bah, ça y était plus. D'un coup, ça y était plus. C'est comme si on avait fermé une porte, je sais pas, descendu les stores, et on était passé dans un autre monde. Je pense que ça m'a beaucoup marqué, même si à l'époque j'étais jeune et que j'ai plutôt pressenti ça que vraiment compris ce qui était en train de se passer.
Pour les professeurs, vous préconisez deux choses, des séances d'orthophonie et des rudiments de psychanalyse.
Oui, j'ai mis très longtemps avant de comprendre que le transfert, ça existait.
Ah oui, sur les professeurs, ouais. En effet. Triste constat aussi pour l'enseignement. Ça fait des décennies que les bras vous en tombent et vous dites « les bras m'en tombent régulièrement ». Vous auriez pu sombrer dans une dépression sans Kafka.
Bah la magie du professorat, c'est que les bras vous en tombent et qu'ils repoussent à chaque fois.
Mais qu'ils retombent à chaque fois aussi.
Et qu'ils retombent à chaque fois, bien évidemment, parce que c'est sans fin. Ouais. On nous coupe les bras. Et là, on est en train de découvrir une forme de brutalité à laquelle, malgré tout, on ne s'attendait pas parce qu'on est souvent un peu trop, je sais pas si c'est naïf, gentil, j'en sais rien. On a passé des heures et des heures, il y a une bonne dizaine d'années, hein, 10-15 ans, dans des réunions au collège, où en fait, on a compris au bout de quelques mois que finalement, on nous consultait sur quelque chose qui était déjà décidé depuis très longtemps. Mais on y croyait. C'est ça, la foi du fonctionnaire.
On y croyait, on y allait, on remplissait les tableaux, on travaillait en équipe, enfin on a tout fait tout bien. Parce que bah, les enseignants, pour la plupart, et c'est mon cas, sont d'anciens bons élèves.
Hein. Comme donc, vous, Nathalie Quintin.
Bah oui, bien entendu. Donc on a tout fait tout bien, et puis au bout d'un moment, voilà, 2 ans après, on s'est rendu compte que de toute façon, tout ça, c'était du pipeau.
Qu'est-ce qui vous fait continuer, Nathalie Quintin?
Bon, les élèves, hein, enfin les jeunes, je pense que la plupart des enseignants diraient ça.
Il y a parfois des éclaircies, parfois des lueurs de grâce.
Mais il y en a, enfin, dans l'établissement où je suis, il y en a tous les jours. Hein. Je suis avec des jeunes de 14 ans. Enfin, je sais pas, il n'y a pas encore au collège, a priori, si je leur donne 3 phrases de Kafka, ils vont pas me dire « Oh là là, non, c'est Kafka, c'est trop difficile ». Ils le prennent et puis on en parle. Et si on amorce, voilà, assez clairement et assez simplement la chose, hop là, on se met au travail, ils se mettent au travail. C'est plus qu'une transmission de leur côté vers moi, c'est une transfusion de vie, d'énergie, de sang neuf, comme on dit. Donc c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que beaucoup d'enseignants continuent. C'est ça le motif, le cœur.
Tout à l'heure, Nathalie Quintin, vous faisiez allusion à l'humour qui est consubstantiel à votre écriture. Et justement, dans les lectures qui vous ont aidé à faire face au monde, il y a ce texte de 1729, « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public » de Swift, qui propose en fait une chose très simple que je vous laisse raconter aux auditeurs.
De manger les enfants.
De 1 an.
Bah oui, puisqu'ils sont beaucoup plus tendres, évidemment.
Et on peut les vendre en plus, donc ça résout beaucoup de problèmes.
On peut les vendre, voilà. Donc on a de l'argent, on a un peu d'argent. Oui, et vous voyez, c'est un texte, quand j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps, je me suis dit, oh, c'est énorme, c'est génial, c'est rigolo et tout. Mais plus le temps passe, plus je me dis, ah oui, peut-être que dans quelques semaines, quelqu'un va proposer à la télévision, ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, écoutez, on a trouvé quelque chose, alors on va pas augmenter le SMIC, vous comprenez, bon, puis le chèque de 1000 euros à l'année pour acheter le gasoil, vous comprenez, là maintenant on peut plus, il n'y a pas d'argent magique, donc ce qu'on vous propose, c'est assez simple, la natalité, là, elle est pas mal, hein, elle a repris en hausse, donc, bah écoutez, donnez-nous vos gosses, et puis on vous donnera un peu d'argent en échange, comme ça vous pourrez manger. Moi je pense qu'on est à 2 doigts de ça, hein.
L'embellie. Eva Bester.
The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show. Through the way that I sit and start to pick up the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can.
Arlo Parks, Too Good, dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Nathalie Quintin.
Lucia, querida, perdona. ¿Dónde podríamos refrescarnos un poco?
Ay, ahora mismo. Y excúseme por no haberme ocupado antes de eso. Vamos a mi tocador. Apuesto que no sale. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación?
La verdad no sé. Me parece inverosímil. O quizás demasiado normal.
Trop normal, demasiado normal. 1962, L'ange exterminateur de Louis Buñuel, qui a départ dans l'émission, je crois, car il était également parmi nous la semaine dernière. C'est aussi l'une des œuvres de votre équipement existentiel, Nathalie Quintane. Pour résumer, après une soirée à l'opéra à Mexico, un couple de bourgeois donne une réception dans leur luxueuse demeure, et puis les domestiques s'en vont, bizarrement, et les riches restent bloqués sans explication dans le salon.
Voilà, confinés.
Confinés totalement. Ils ne peuvent sortir, mais on n'a jamais d'explication à cause d'une aboulie, un manque de volonté.
Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une espèce de lieu est devenu ensorcelé ou aucune explication n'est donnée? Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'au début, ils essayent de garder figure humaine, comme on dit. Et puis, peu à peu, ils ont de plus en plus chaud. Alors, là, le maquillage coule, ils transpirent, ils suent de tous les côtés. Quelqu'un commence à dire, mais ça pue. Et puis, ça dégénère de plus en plus de tous les côtés. Et c'est vraiment un film pour aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, bon, peut-être que il paraissait loin. Les choses les plus démentielles, les plus folles, aujourd'hui, on peut à nouveau les regarder.
Comme vendre les bébés à un an pour les manger.
Voilà, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais en fait, on a accès à nouveau à des œuvres comme celle de Swift, comme celle de Buñuel, et ça nous parle maintenant directement, je trouve, beaucoup plus qu'avant.
Et ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle.
Peut-être pas.
Non?
Ouais.
C'est peut-être parce qu'on s'habitue à l'horreur?
Et ben justement, le film de Buñuel, L'ange exterminateur, ça permet vraiment de passer par l'horreur et de mieux la saisir ou s'en saisir, je crois.
Oui, parce qu'en fait,
c'est une forme d'horreur. C'est pas l'horreur avec un grand H, c'est l'horreur avec une toute petite H. C'est l'horreur bourgeoise d'une certaine manière, quoi.
Oui, mais avec les animaux monstrueux qui sommeillent en chacun de nous, quand même, quelle que soit la classe sociale. Et quand on nous met dans une situation de crise où on n'a plus à manger, plus d'eau et... Et ben forcément, il y a des instincts terribles qui se révèlent.
Voilà, c'est plus refoulé, ou en tout cas le refoulement fait les siennes. Mais on est dans un moment comme ça. Il y a vraiment le travail de Buñuel, il faut le regarder à nouveau.
Vous dites ça en souriant, ouais. Nathalie Quintane.
Ah ben oui, parce que c'est drôle aussi, quand même.
C'est très drôle, mais glaçant. Comme Swift, et comme le poème dont on va parler maintenant, pour être armé dans l'existence, tout le monde devrait lire « Démocratie » de Rimbaud, donc dans le recueil Illumination. Et sur le site Lundi Matin, justement, vous dites à propos de ce texte que c'est l'un des plus grands textes sur la démocratie qu'on puisse lire en 20 lignes, pas la peine de lire autre chose. Je vous laisse nous le lire, Nathalie Quintane.
Et il est entre guillemets. Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Ô pays poivré et détrempé, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir ici, n'importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce, ignorant pour la science, roués pour le confort, la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant. Route.
Alors pour le contexte historique, on est à un moment où il y a eu l'écrasement de la Commune et l'exploitation des colonies par une France qui proclame les valeurs de la République, puisqu'on est sous la Troisième République. Pourquoi ce poème? Pourquoi le choix de ce poème? Qui est à nouveau un constat tragique.
Il y a En Marche dedans. Oui. Non, je plaisante. Parce que vous avez... alors c'est dense, hein, évidemment. Oui. Hein. Je l'ai lu une fois, là, mais il faut le relire
beaucoup.
Et voir tout ce qu'il y a dedans. Il y a toutes les colonies derrière, de manière assez littérale. Et il y a cette espèce de... C'est pas son discours à lui, hein, puisque c'est entre guillemets. Donc c'est le discours du pouvoir, enfin, hein, du pouvoir de l'époque. Moi, j'ai toujours... C'est marrant parce que je suis en train d'écrire un texte qui se passe en grande partie au Palais de l'Élysée, qu'on peut visiter virtuellement. Et le Palais de l'Élysée, comme beaucoup de lieux de pouvoir en France, c'est du Napoléon III. Et plus je visite le Palais de l'Élysée, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je suis tous les jours dans le Palais de l'Élysée.
Ah, c'est vous.
Faut bien le savoir, c'est moi. Plus je me dis que nous sommes sous Napoléon III, tous, mais on a un peu du mal à s'en apercevoir. Et c'est pour ça que les textes qui ont été écrits, les poèmes de Rimbaud, tous ceux qui ont écrit là comme ça sous Napoléon III, me semblent très parlants aussi aujourd'hui. Les décors qu'on admire encore, ou qu'on admire sans les voir vraiment, sans les regarder. C'est ce qui m'a, comment dire, arrêté sur le palais de l'Élysée. Hein. En fait, même après l'espèce de rectification de Brigitte Macron qui a essayé de tout repeindre en blanc là où elle pouvait, il y a le poids de la déco Napoléon III qui est très présente. Et quand on habite à un moment un palais comme ça ou des maisons comme ça, forcément, on en est imprégné, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'on vit tous sous Napoléon III, voilà.
Mais parfois on vit quand même dans une laideur extrême et un dénuement extrême. D'ailleurs, les deux ne sont pas forcément toujours associés, mais souvent, hélas, parce qu'on parlait tout à l'heure d'urbanisme, parfois ça peut juste être simplement beau aussi du Napoléon III si on n'y met pas tous les signes derrière. Est-ce que c'est possible de ne pas mettre tous les signes derrière ?
C'est ni beau ni laid, c'est doré.
Ben, c'est beau.
Il y a du doré partout. Alors j'ai lu dans un magnifique texte de Tanizaki, l'éloge de l'ombre, que s'il y avait autant de doré dans ces maisons-là, c'est parce que ça réfléchissait la lumière. Pas mal, pas mal. Sauf qu'il y a déjà, fin 19e, dans les maisons bourgeoises, il y a déjà l'électricité. Mais il faut garder le doré quand même. Et puis il y a beaucoup de jolies muses avec des bololos.
Ah oui.
Ah oui. Plus on lève la tête et plus on va vers le plafond, vers les médaillons qui sont au-dessus des portes, plus il y a des muses avec des bololos.
Mais je crois que les poitrines ont quand même eu le vent en poupe depuis plusieurs siècles un peu partout.
Ah oui, oui. Alors elles ont la peau laiteuse, et voilà, comme ça. Donc on vit là. Enfin, les gens qui habitent ces oui. demeures hein, vivent avec ces femmes là au-dessus d'eux et d'elles, et puis du doré un peu partout avec des choses extrêmement. Vous savez quand même un bouclier qui rentre dans une flèche, qui rentre dans une fleur, dans un rinceau, dans un linteau, dans du lys, dans du machin. C'est extrêmement compliqué hein, ces affaires. Là. C'est fascinant, c'est hypnotique.
Bah oui, ça a l'air chouette.
J'ai joué, ouais, ça a l'air chouette, je sais pas. J'ai peut-être passé trop de temps finalement.
Peut-être, mais c'est mieux parfois qu'une vue sur un parking que j'ai eu longtemps par exemple. Là, ça a l'air quand même assez attrayant.
Faut essayer les deux.
Oui. Nathalie Quintaine, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous répondez ceci. Je suis dans l'avant-dernière partie. Si je me suis plantée, c'est trop tard. Il aurait fallu réfléchir ou réagir avant. C'est une façon de ne pas répondre, ça.
Ah, vous me posez la question de
Il n'y a rien jamais que...
Très clairement, j'ai 57 ans, ça fait 30 ans que je bosse. C'est une réponse qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, une réponse très simple et littérale, d'autant plus que j'ai sorti quand même un certain nombre de livres. Et là, voilà, c'est fait. Hein. Je réfléchissais, enfin j'essayais de repenser tout à l'heure à tout ça. S'il y avait un adjectif qui pourrait, je sais pas, donner une idée de tous ces livres, je me suis dit que c'était bizarre, c'était un peu bizarre.
Bizarre.
Bizarre, c'est des livres un peu... excentré comme ça. Enfin, on a du mal à trouver le centre, donc on peut y rentrer. Il y a pas mal de livres où on peut rentrer un peu au début, au milieu, à la fin, où on peut rentrer par tous les bouts. Et d'ailleurs, il y a pas mal de livres qui sont écrits par tous les bouts, au sens où il y a une espèce de premier jet, puis après, je re-rentre dedans pour ajouter des choses bizarres et un peu et sans centre.
Oui, c'est voilà. Vrai. Bah, par exemple, le dernier, La Cavalière, chez POL, c'est ouais. Un peu ça. Au début, vous rencontrez des témoins, on parle d'une figure qui n'est pas toujours là, qui n'est finalement pas le centre du livre alors qu'elle donne son titre au livre.
Elle donne l'entrée. C'est, ouais. C'est une femme qui a une prof de philosophie, vécu, Nelly Cavallero, et qui était une femme flamboyante, un personnage, une personne fascinante. Et c'est par elle qu'on entre dans le livre, parce qu'il lui est arrivé, elle a été radiée de l'éducation nationale au milieu des années 70, donc elle, c'est le point d'entrée. Et le livre cavale comme elle, cavale à sa recherche.
Quand je suis né, le bon Dieu, il était ailleurs. Il n'a pas pu s'occuper de moi. Alors, vous voyez le résultat. C'est pas brillant.
Oh, mais tu es très bien, Auguste. Tu as ce qu'on appelle une laideur intelligente.
Te fatigue pas, allez. J'ai une glace et je me vois tous les matins.
1953, L'étrange désir de Monsieur Bard, de Gyesa Radvani, avec Michel Simon, une pépite trouvée par notre réalisatrice Juliette Gou, pour introduire la chose belle qu'on vous a demandé de trouver, à recommander aux auditeurs, Nathalie Quintaine. Et vous répondez ceci, tout ce qu'ils trouvent a priori peu esthétique, alors on peut commencer à regarder vraiment, c'est-à-dire penser. Vous l'avez fait dans plusieurs de vos ouvrages, je pense à Chaussures, où c'est un livre de remarques à propos de chaussures, littéralement, ou Remarques, un livre de remarques, sur des choses banales.
Oui, bah moi je pense à Michel Simon. Michel Simon, il a... voilà la beauté.
Mais quand vous dites ce qu'on trouve a priori peu esthétique, est-ce que vous avez d'autres exemples que Michel Simon qui parfois est esthétique, malgré tout?
Oui.
Là, par exemple.
Je conçois mal, si vous voulez. C'est peut-être pour ça que je m'appesantissais un peu trop sur le décor Napoléon III. Je conçois mal l'esthétique fermée en elle-même, quoi. Ça finit par être un peu un simple objet de contemplation. Et donc, c'est fermé, ça arrête.
Donc, et l'art pour l'art et la beauté pure, non.
Bah, c'est pas, ça me semble pas très ad hoc, pas très adéquat. Faut que ça vive tout ça, et donc l'esthétique, si on veut, mais quand c'est à boucher, ou quand ça va vers autre chose, ou quand ça circule, ou quand c'est poreux, quand c'est pas que du décor ou du décorum, et le jeu de l'acteur, bah peut-être que c'est ça. C'est pas, on demande pas simplement à ce qu'il soit virtuose. Les guitaristes qui font 8000 notes à la minute, ça j'ai jamais compris. Je veux bien qu'on les admire parce qu'ils ont une espèce de technique ahurissante et tout ça, mais c'est un truc que je comprends pas.
Oh, vous êtes dure, Nathalie Quintaine. Je m'étais entraînée à faire un solo là, mais je vais pas le faire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez regardé différemment récemment, par exemple, dans les choses peu esthétiques, les choses qui n'attirent pas l'attention naturellement?
Bah, la ville où je vis, hein, une petite ville de France.
Digne-les-Bains?
Ouais, par exemple, mais je pense que Digne, en fait, je l'appelle jamais Digne, hein. Je dis D parce que c'est une métonymie de, c'est quasi une métonymie de la France, du pays, en règle générale. Peut-être que une partie de la France, c'est ça, c'est une espèce d'entre-deux, c'est ni esthétique, ni beau, ni laid, ni je sais pas quoi. La plupart des villes, c'est pas ça. Même les centres commerciaux, c'est ni beau, ni laid. Ça serait trop facile de dire simplement que c'est laid ou sans intérêt. Non, je crois pas. C'est une question de regard, hein. Donc voilà, c'est à travailler.
J'aimerais qu'on parle d'échec. Ouais. Alors, je vous ai demandé ce que vous aviez raté, Nathalie Quintane, et vous dites l'échec ou le ratage ou l'expérimentation est une dimension importante du travail artistique, quel qu'il soit, tout comme le hasard, voire la désinvolture. Ce n'est pas un domaine où l'on pense en termes de réussite. Alors ça m'a surpris quand même comme réponse, puisque un artiste... Je ne dis pas vous, évidemment, mais un artiste en général, quand même, pourrait penser « j'aimerais bien que mon œuvre plaise ». Ils ne sont pas si purs que ça, les artistes, ils ont un peu de vanité.
Le beau est toujours bizarre. Ça, c'est pour moi l'une des leçons de la modernité et des avant-gardes. C'est qu'il faut faire avec le hasard, le manque, le ratage, les choses incomplètes, les fragments. Ça date même d'avant, hein, puisque les romantiques allemands ont travaillé là-dessus. C'est quelque chose de très important, ça permet une souplesse, ça permet une attention... Et puis, j'ai envie de je me souviens toujours quand on pose un peu cette question de ce que disait Paulo Tchaïkovski Lawrence, qui est donc le POL.
Oui.
Et qui expliquait, quand j'ai compris ça, j'ai compris pas mal de choses sur la manière dont il choisissait les livres et dont il avait conçu sa maison d'édition, son catalogue. Il disait, je veux pas forcément un chef-d'œuvre, un roman parfait, quelque chose, voilà, où on va jusqu'au bout et tout est construit de manière impeccable. Ce qui m'intéresse, c'est justement quand c'est pas tout à fait parfait, quoi. Quand il y a des petits ratages, des petits manques, des petits quelque chose comme ça, et que il y a quelque chose qui m'arrête. Et c'est ça aussi qui sans doute, alors à l'époque je ne le savais pas, mais inconsciemment a fait que j'ai travaillé, à l'intérieur du catalogue POL pour essayer d'en travailler aussi les choix, les limites, parce que en fait tous les genres ont été publiés par Paulo Tchaïkovski Lawrence, le théâtre, la poésie, le roman, des essais de cinéma, etc. Tout. Et c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de ce champ extrêmement à la fois précis et large, j'ai pu un peu essayer tout essayer.
Vous semblez faire attention à tout. Dans La Cavalière, il est beaucoup question justement d'attention à l'autre, de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Je vous ai demandé un engagement en fin d'émission, Nathalie Quintane, et vous avez répondu ceci. Faire attention au studio, à vous, aux techniciens, aux autres personnes croisées dans les couloirs de la maison de la radio, me demander si ça change, si ça a changé, en quoi, pourquoi. N'est-ce pas plus une habitude qu'un engagement futur? Une habitude que vous avez déjà?
Non, c'est pas... Ben justement, c'est pas une habitude.
De faire attention à l'autre?
Ben non. Je pense que ça n'est jamais... ça n'est jamais suffisamment une habitude, ou en tout cas, c'est justement, si c'est une habitude, c'est que justement, il y a des choses qu'on n'est pas en capacité de noter, de remarquer. Il faut se déshabituer ou se défamiliariser. Et il y a une chose que je demande, vous savez, à mes élèves là en septembre, quand c'est un peu difficile, qu'on a ces premiers cours un peu où on se connaît pas trop, on essaye de se jauger les uns les autres et tout ça. Et le premier exercice que je leur demande de faire, le premier jour, c'est un exercice à la Pérec, hein, c'est vous êtes depuis votre place, vous allez décrire la salle de classe sans vous retourner, ce que vous avez face à vous, à vos pieds, au-dessus de vous, sur les côtés, et vous pouvez évidemment regarder par la fenêtre. Et ils commencent à décrire comme ça sur le motif. Et même ceux qui n'ont pas spécialement d'inspiration, ils arrivent à faire une page. Voilà le premier, l'ancrage.
Bon, on pourrait recommander cet exercice aux auditeurs, d'écrire une page de tout ce qu'ils voient autour d'eux, là, sans bouger.
Pourquoi pas?
Ah oui? Merci beaucoup d'être venue, Nathalie Quintaine.
Merci, merci à vous.
Vos derniers ouvrages sont Un hamster à l'école aux éditions La Fabrique, J'adore apprendre plein de choses aux éditions Oura et La Cavalière chez POL. Chers auditeurs, toutes les références sont comme toujours sur le site de l'émission, nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi folâtres que des libellules merguez croisant le fer. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.